Et merci d'être venu de loin, car vous venez de Bordeaux, par un petit périple sur Martigny, pour faire vos cours. Donc il a beaucoup travaillé, et vous êtes arrivé chez nous tout à l'heure. Merci beaucoup, parce que c'est beaucoup de fatigue, mais en même temps, je pense que tout est porteur, n'est-ce pas? C'est ce que nous disions. Alors, on a le plaisir ce soir de vous avoir comme conférencier pour nous parler des prophètes, gardiens de l'Alliance. Alors, je veux quand même vous dire quelques mots du père Philippe de Thaï, qui est un prêtre orthodoxe du patriarcat de Roumanie. Il est fondateur, vous êtes fondateur et responsable avec votre épouse Eliane, du centre d'études et de prières de Sainte-Croix en Dordogne. Et d'ailleurs là, je fais la parenthèse tout de suite pour ne pas oublier, vous avez des documents, des flyers, pour pouvoir trouver des programmes de ce que fait ou de ce que font le père et son épouse. Il propose donc, vous proposez depuis 28 ans, une pratique de la voie spirituelle dans l'héritage de la tradition philokalique, il faudra peut-être nous dire tout ça, et éthicaste, sous forme de retraite et de session. Différents thèmes sont ainsi développés, tels l'étude biblique avec Annick de Soussenel, et là nous sommes beaucoup ici à connaître Annick de Soussenel, le rapport de la philosophie et de la spiritualité avec Bertrand Vergely, là aussi beaucoup de personnes connaissent, et des sessions de dialogue, science et spiritualité, écologie et spiritualité, économie et spiritualité. L'art, dans ses différentes expressions, est proposé sous forme d'atelier. Dans l'église romane, ornée de 130 mètres carrés de fresques, la vie de prière quotidienne suit le calendrier de l'église orthodoxe. Père Philippe, vous êtes délégué à l'œcuménisme pour la région du Sud-Ouest par l'Assemblée des Églises orthodoxes de France et engagé depuis 15 ans dans le dialogue interreligieux. Merci, voilà. Et il est sûr que vous êtes connu à l'Amitié judéo-chrétienne de France au niveau national, de même que Sandrine Canéry, que vous connaissez aussi, pour d'autres raisons. Vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle Le chemin de l'homme selon la Bible. Alors tout cela, je peux laisser cette feuille au bord là-bas si vous voulez noter, parce qu'il y a des liens, des contacts, ou peut-être on pourrait les marquer ici, et le titre de votre livre également. Je vous passe le micro. La parole, surtout.
Ça marche comme ça ? Suffisant. Voilà, donc merci beaucoup pour le très chaleureux accueil à Annecy, pour cette invitation. Donc ce soir, je suis très heureux d'être parmi vous. Donc pour ce thème, les prophètes gardiens de l'Alliance. Donc, juste préciser que ça fait 30 ans que je travaille avec Annick de Soussenel et donc je suis tout à fait inscrit dans cette lignée. Donc forcément, il y aura des éléments qui seront empruntés. Et je voudrais tout d'abord, avant d'aborder le thème lui-même, donc préciser les deux mots philokalie et éthicaste, parce que peut-être c'est pas, je dirais, accessible ou peut-être c'est peu connu. C'est rappeler ici que la tradition chrétienne a été une pendant au moins 5 siècles, Et en tout cas, l'Église catholique et l'Église orthodoxe ont été ensemble pendant 10 siècles, ce qui n'est pas rien, et que dans les premiers siècles, l'accent était mis sur l'expérience intérieure, et notamment sur la quête de la beauté originelle. Philokalie veut dire en grec « amour de la beauté ». Et cet amour de la beauté exprime ce désir des anciens de revenir à la dimension originelle, et vous allez voir que ça a des passerelles, il y a des passerelles avec notre sujet, à la dimension originelle, pas la dimension originelle dans le sens de ce qui est avant ou de ce qui nous précède dans le temps, à la dimension originelle dans le sens où cela vise notre profondeur, ce qui est originel en nous. Et donc ce qui est originel en nous, c'est l'image de Dieu. Et la quête de la beauté, c'est dire que ce qui est le plus originel en nous, c'est cette image de Dieu. Et si on nomme l'image de Dieu, on nomme la beauté, on nomme la joie, on nomme la paix, on nomme la santé, et on nomme l'amour. Et ça veut dire ici que ce n'est pas le péché qui est originel, mais c'est la paix, la joie, l'amour, et c'est ce que nous avons au plus profond de nous, chaque être humain. Et c'est pour cela qu'il s'agit d'honorer et de respecter chaque être humain. Et d'autre part, après, ils sont hésitas. Hésitia veut dire silence. C'est une quête du silence, mais la quête du silence, c'est la quête de celui qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Et donc, cela a été développé du 4e siècle jusqu'à nos jours, et cette tradition est une tradition qui nous est commune, car tout le monachisme occidental s'enracine dans cette tradition égyptienne, et nous avons voulu revenir aux origines, et donc tout ce qu'on propose au niveau de nos retraites et de nos sessions sont fondées sur cette tradition ancienne qui a, je dirais, un accent ou une résonance très particulière de nos jours, car elle articule avec bonheur, spiritualité et psychologie. Et en tout cas, dans une vision tout à fait unitive, dans l'héritage de la tradition juive, c'est-à-dire que, en fait, on ne voit pas ici un corps, ou ici une âme, ou ici un esprit, mais on voit un être humain dans un corps, porteur d'une âme et d'une conscience. Voilà, c'était juste pour préciser cela. Et donc, ça nous mène directement ici au thème de l'Alliance. Car avant de parler des prophètes comme gardiens de l'Alliance, peut-être il s'agit, suite à ce texte qui nous a été lu, de rappeler ce qu'est l'Alliance. Donc le mot en hébreu, brit, est le premier mot de la Bible, Bereshit. Bereshit peut se lire aussi brit esh, alliance de feu. Et donc, vous voyez, dès le premier mot de la Bible, il est question de l'alliance. Et donc, gardien de l'alliance, c'est gardien de ce qui a toujours été établi. Car quand Dieu crée, il crée, comme vous savez, les cieux et la terre, et puis tous les éléments qui suivent, et au sixième jour, il crée le Adam, comme récapitulation de toute la création, et immédiatement, il établit avec le Adam une alliance de feu, brit esh. Et donc, tout est inscrit dans cette dynamique d'alliance, une alliance irrévocable, comme il a été dit tout à l'heure, parce qu'elle est scellée dans notre chair, à savoir que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, c'est cela qui est dit à propos d'Adam dans le livre de la Genèse, à savoir que dès que Adam apparaît, il apparaît comme un être créé à l'image de Dieu. Ce qui veut dire une parenté avec Dieu, ce qui veut dire aussi que cette présence divine est scellée dans la profondeur de l'être humain et que l'alliance, elle exprime un appel et une réponse. Car quand Dieu crée, en même temps, il appelle. Je pourrais citer ici le deuxième chapitre de la Genèse. Dans le deuxième chapitre, il est dit que Dieu souffle dans les narines de Adam, et Adam devint une âme vivante. Mais quand Dieu souffle, il ne fait pas que souffler, il parle. Quand Dieu souffle, il nomme. Comme quand j'expire ici, je dis des mots. Donc, la tradition ancienne et quelques midrashs juifs nous disent que quand Dieu souffle dans les narines de l'homme, en même temps, il prononce son nom. Il l'informe. Et ce n'est pas par hasard si dans ce deuxième chapitre, en même temps que Dieu souffle, Adam prend forme. Et donc, il y a ici un appel par le fait qu'il nomme. Un appel, et tout le chemin de l'homme, je pourrais quand même dire ici que ce titre, il est emprunté à un juif qui s'appelle Martin Buber, qui a écrit un très beau livre, et parce que j'aime beaucoup Martin Buber, j'ai eu l'audace de reprendre ce titre en précisant selon la Bible. Et donc, ça trace ici le chemin de l'homme, le chemin de chaque être humain. Quand je dis homme, ici c'est avec un grand H. Les femmes, évidemment, sont concernées, car le Adam est aussi bien masculin que féminin. Et donc, c'est pas Monsieur Adam et Madame Ève, parce que Madame Ève, elle n'arrive qu'au troisième chapitre. Vous savez, après ce fameux fruit de l'arbre de la connaissance. Et donc, Ève, elle est quand même liée à la chute. Et donc, ici, ce dont nous parlons, c'est de chaque être humain, homme ou femme, qui est nommé par Dieu et en même temps appelé par Dieu, et c'est ça le fondement de l'alliance, et cette alliance est éternelle, elle est irrévocable, elle scelle notre fondement d'humain et en même temps nous invite à une réponse. Et en fait, le chemin spirituel en tradition judéo-chrétienne et l'aventure, je dois dire ça, aventure, parce qu'il y a le mot vent dedans, il y a du souffle et du rouard. L'aventure de la réponse. Donc la seule chose qui soit essentielle, en fait, c'est comment je peux répondre à l'appel, ou bien encore mieux, correspondre à cet appel, c'est peut-être que faire la volonté de Dieu, au-delà de s'appliquer moralement au commandement de Dieu, c'est beaucoup plus profondément correspondre à cet appel. Et donc, toute la Bible s'origine dans ces premiers chapitres qui sont transhistoriques, à savoir qui traversent l'histoire et qui ne sont pas strictement historiques, mais qui disent la réalité de l'homme intérieur, de l'Adam intérieur, ça veut dire de l'Adam de toutes les époques, car ici, il n'y a pas quelque chose qui n'aurait pas été et qui est maintenant dans une dynamique d'évolution, mais quelque chose qui a été de toujours, à savoir que l'être humain, il est être humain pour la Bible, parce que il est créé à l'image de Dieu et qu'il porte en lui une parenté avec Dieu, ce qui veut dire qu'il est capable de Dieu. Capable de Dieu, ça veut dire capable de vivre une relation, et c'est ce qui va se déployer dans l'univers biblique. Capable de vivre une relation, bien plus capable d'entrer en communion avec Dieu, et capable de cheminer vers une intimité ineffable, peut-être même inatteignable, mais tout à fait possible. Et donc, c'est dans cette dynamique qu'il s'agit de lire tout le prophétisme. Le prophétisme que l'on voit advenir progressivement au fur et à mesure du récit biblique, car il y a déjà le signe d'une alliance avec Abraham, et peut-être Abraham est le premier prophète. Avec Noé d'abord, parce que j'ai l'alliance avec Noé. Noël dans l'arche et l'arc-en-ciel qui est signe de l'alliance. Voilà, j'étais allé trop vite. Donc d'abord avec Noé, puis avec Abraham, puis comme nous avons entendu aussi, à une alliance qui est confirmée avec Moïse et qui s'inscrit dans l'Exode. L'Exode étant le mouvement inverse de l'exil, c'est le retour d'exil. Et donc, les prophètes ici et le prophétisme va s'inscrire dans cette dynamique d'alliance pour rappeler sans cesse cette alliance scellée de toujours entre Dieu et l'être humain, mais comme nous le savons que trop, au niveau personnel et au niveau historique, combien l'être humain oublie, s'égare, s'éloigne, et il nous faut des prophètes pour nous rappeler à cette alliance que nous portons au fond de nous, mais quelquefois nous ne savons même pas que nous sommes inscrits dans cette alliance. Et tout le thème de la teshuva, de la métanoïa, de la conversion et de revenir. Et nous entendons dans le prophète Zacharie, mais déjà Ézéchiel et tous les prophètes, revenez, revenez, revenez. Ça veut dire que l'on s'est écarté, et l'on s'est écarté parce qu'on se laisse distraire par les immenses sollicitations du monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes hyper sollicités par le monde extérieur, par tout ce que nous avons apporté à travers les médias, à travers l'Internet, etc. Et en fait, se laisser distraire, se laisser tirer dehors et échapper ici à l'appel que Dieu nous adresse à chaque instant. Donc, revenir ici vers l'intérieur, revenir à ce qui est originel en nous, et savoir écouter la parole. Écouter la parole, c'est pas simplement écouter une parole qui a sa propre signification. Ce n'est pas simplement écouter une parole qui peut, je dirais, avoir une résonance avec notre propre expérience. C'est écouter une parole qui transite entre un Dieu qui nous parle et un homme, un être humain qui écoute. Je crois qu'il s'agit de resituer ici dans Brit Esh, l'alliance de feu, à savoir que la parole de la Bible n'est pas simplement un ensemble de livres littéraires qui sont composites à travers effectivement l'histoire et qu'il y a eu des genres littéraires différents, des époques différentes, des influences différentes. On peut faire cette analyse, mais il ne faudrait pas perdre de vue en faisant cette analyse qu'il s'agit toujours de quelqu'un qui parle à quelqu'un. C'est tout à fait différent si je reçois une lettre anonyme qui exprime de la reconnaissance ou de l'amour, ou bien si je reçois une lettre de quelqu'un qui m'aime, et cette lettre-là, elle peut être plus ou moins rédigée, plus ou moins poétique, mais ce qui m'importe, c'est pas la qualité littéraire de la lettre. Ce qui m'importe, c'est que c'est un cœur qui aime, qui s'exprime dans la lettre, et qui vient me toucher comme un cœur qui peut-être s'inscrit en réciprocité, c'est une lettre d'amour. Et donc, je crois qu'il s'agit d'écouter la parole comme une parole d'amour qui m'est adressée via la parole biblique, et donc la parole biblique m'inscrit dans une dynamique relationnelle. Je crois que ça c'est fondamental, parce que au XXe siècle, nous avons, en tout cas, nous les chrétiens, beaucoup sacrifié à la critique historique, à la critique archéologique, à la critique littéraire, et presque oublié que la parole, elle est transitoire, elle transite de quelqu'un à quelqu'un. Or, en fait, si on perd cela, on perd l'essentiel. Car, ensuite, il s'agira d'écouter la parole pour entrer en relation avec ce quelqu'un. Et sinon, on est dans le péché. Sinon, on est dans le péché. en rappelant ici que le mot péché veut dire quoi ? Veut dire déviation, mal visé, mal orienté, rater la cible. On aura raté la cible. Car si la parole ne nous reconduit pas à celui qui parle, alors nous aurons raté la cible si nous sommes égarés dans l'exégèse et dans, je dirais, l'intérêt de la parole pour elle-même. Et donc ici, les prophètes vont rappeler tout ça. Donc on a une image, en fait, du prophète, de celui qui va annoncer l'avenir. Je crois qu'il faut sortir de cette image. Les prophètes n'annoncent pas l'avenir. En tout cas, ce n'est pas du tout ici le rôle des prophètes. Et donc, si Dieu propose à l'être humain une alliance, cette alliance, elle va être toujours reproposée à travers des êtres qui sont envoyés par Dieu. Et donc, ce sont les prophètes qui sont avant tout des hommes de la parole et du souffle. Il n'est pas le prophète, celui qui dit à l'avance, comme on pourrait le croire, l'avenir. Il est avant tout celui qui est appelé, qui reçoit un appel divin, ou plutôt, qui a entendu l'appel, car l'appel concerne tout à chacun, qui a entendu l'appel. Pour accomplir une mission, pour proclamer la parole de Dieu et annoncer et le jugement et le salut. Donc dans la Bible, il est le messager de Dieu, le porte-parole de Dieu, il sait entendre et en même temps l'interprète de la parole, car quand même il faudrait préciser que les prophètes, comme on peut le remarquer, ont du caractère et ils connotent la parole avec leur propre personnalité. Et on peut regarder en détail, en tout cas, pour Ézéchiel, et pour, par exemple, le prophète Élie, c'est des sacrées personnalités, ou le prophète Jonas, aussi, qui se rebelle contre Dieu, je vais en parler tout à l'heure. Donc, le prophète appelé par Dieu est apte à entendre la parole de Dieu avant de la transmettre. Je vais m'arrêter un peu sur ce point-là, que je trouve très important, parce que, autrement, on peut dire tout ça, puis passer à autre chose, et voilà. Parce que ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Parce que les prophètes sont des êtres comme nous. Simplement, ils ont entendu. Ils ont prêté l'oreille. Et prêter l'oreille, ça signifie ici ouvrir l'oreille du cœur. Ils n'ont pas prêté l'oreille, ils n'ont pas entendu. À l'extérieur, ils ont entendu à l'intérieur. Il n'y a personne qui leur a crié la parole. Ils l'ont entendu à l'intérieur. Ça, c'est très important, car, en fait, on pourrait dire, mais aujourd'hui, personne n'entend la parole. Faux. Celui qui se dispose peut, aujourd'hui, entendre la parole de Dieu comme les prophètes l'entendent. Alors, si vous me permettez, je vais dire une petite parabole de l'Évangile. C'est la parabole du semeur, de la semence et des terrains. Donc le Christ donne cette parabole. Un semeur sème et il jette de la bonne semence. C'est moi qui rajoute bonne, mais je fais exprès, vous savez, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Il jette de la bonne semence et de la bonne semence tombe sur le chemin. Mais aussitôt les oiseaux viennent et ils prennent la semence. Deuxièmement, il y a de la semence qui tombe dans les endroits où il y a des rocailles, des endroits pierreux. Et la semence commence à germer, elle s'enracine, puis elle commence à monter. Mais comme il n'y a pas de profondeur de terre, dès que le soleil va se lever, il va brûler la semence parce qu'elle ne peut pas plonger ses racines suffisamment profondes dans l'humidité. Et peut-être dans l'humilité. Je ne sais pas, on verra tout à l'heure. Et puis, il y a de la bonne semence qui tombe dans un endroit où il y a des épines ou des mauvaises herbes, et les épines vont étouffer la bonne semence. Puis, la bonne semence va tomber dans différents terrains, et l'un va produire 30, l'autre va produire 60, et l'autre produit 100. Et le Christ, c'est l'exégèse, ça nous intéresse, parce qu'il fait la lecture. Je voudrais dire ici que Le langage parabolique est un langage biblique. Le Christ n'invente rien. La tradition des paraboles est une tradition juive tout à fait avérée. Et c'est intéressant parce que c'est un langage en images. C'est un langage accessible. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'université, et peut-être même ceux qui ont fait l'université ont plus de difficultés à comprendre que ceux qui ne l'ont pas fait. Et donc c'est un langage imagé, et tout le monde a l'expérience des scènes agraires ou agricoles. Donc tout le monde peut tout à fait voir de quoi il parle. Simplement, quand Jésus parle d'une scène agraire, en même temps il nous parle du royaume des cieux. Pour dire qu'il y a une correspondance profonde entre la scène agraire, ce qu'on peut voir tous les jours, et ce qui se passe dans le royaume des cieux. Il nous apprend à faire le passage de l'un à l'autre. Et c'est intéressant, il y a toute une pédagogie parabolique. Je trouve ça très important. Car peut-être pour mieux comprendre Jésus et mieux comprendre la tradition juive, il s'agit d'entrer dans une écoute parabolique. Et donc le Christ fait l'exégèse et il nous dit « La semence, c'est la parole. » Donc quand on entend « semence », il s'agit d'entendre la parole. Et le terrain? Le terrain, c'est le terrain du cœur. Et donc il est en train de nous dire que la bonne parole est semée dans tous les cœurs, comme la bonne semence est semée sur tous les terrains. Mais la fécondité ne dépend pas de la qualité de la semence, la fécondité dépend de la qualité des terrains. Et c'est là où, en fait, les prophètes ont d'abord préparé le terrain. Ils ont pu entendre la parole. Mais nous pouvons aussi, comme il est dit dans le livre de la Genèse, garder et cultiver le jardin. Garder et cultiver le jardin. D'abord le garder, ça évitera que les ennemis viennent y jeter de l'ivraie. Et puis ensuite cultiver. Et cultiver, c'est tout le dynamisme de purification intérieure. Donc, les prophètes sont des êtres purifiés. Ils savent entendre la parole. Et d'autre part, ils connaissent bien aussi la tradition parce que pour interpréter la parole, il ne s'agit pas de l'interpréter par rapport à son propre vécu ou sa propre expérience, parce qu'à ce moment-là, c'est une interprétation subjective, mais qui peut-être n'a pas, je dirais, une résonance universelle. Les prophètes, ils sont imprégnés de la Torah, imprégnés de la tradition juive. Et donc, c'est dans cette imprégnation qu'ils font une lecture de la parole qu'ils entendent. Autrement dit, en tradition chrétienne comme en tradition juive, il s'agit d'interpréter la parole par la parole. C'est par la parole qu'on interprète la parole, qu'on apprend à lire la parole. Et donc ici, vous savez, il y a des tendances aujourd'hui où on pense que la spiritualité peut être hors sol ou hors tradition. Pour moi, je m'inscris en faux. Je n'ai jamais vu aucune spiritualité, fût-elle juive, chrétienne, musulmane, bouddhiste, hindoue, hors d'une tradition spirituelle qui se transmet de génération en génération. Donc ici, on s'inscrit dans une mémoire collective et dans une parole qui est portée par un peuple. Et vous savez très bien, pour confirmer cela, que la transmission a été d'abord orale avant d'être écrite. Elle a été portée par une mémoire, les évangiles aussi. Car vous savez, ils ont été écrits tardivement. Et puis d'autre part, eh bien, le message peut être transmis par une vision. Par exemple, Isaïe 6, Ézéchiel 1, Daniel 8, Zacharie 1, jusqu'à Jean l'évangéliste. Et il est dit pour Ézéchiel, comme Jean l'évangéliste d'ailleurs, qu'ils ont mangé le rouleau. Ils ont mangé le rouleau. N'allez pas croire qu'ils ont mangé du papyrus. Parce que, à mon avis, ils auraient mal digéré le papyrus. Donc, ils n'ont pas mangé le papyrus. Manger le rouleau, ça veut dire quoi? Manger la parole inscrite sur le rouleau. Donc, ça veut dire que la vision, elle est l'expression de l'écriture qui a été entendue, qui a été reçue intérieurement, qui a été mémorisé et qui, dans cette mémorisation, s'est exprimé sous forme de vision. Et vous savez que Ézéchiel a mis en mots une vision. En tout cas, le chapitre 1 et le verset 10 sont l'expression d'une vision comme l'Apocalypse de Jean et la description d'une vision. Et là, nous avons un point extrêmement important, c'est le fait que tout commence dans l'écoute et tout prend sa pleine dimension dans la vision. Nous avons pas loin d'ici un père de l'Église qui est pour nous très important, qui est Saint-Irénée de Lyon. Saint-Irénée de Lyon, il était un sémite. Il est très intéressant parce qu'au moins, il est dans l'héritage de la tradition sémite et juive. Parce que vous savez, nous avons une difficulté, nous, dans la tradition chrétienne. C'est que la tradition chrétienne a été transmise dans les catégories de la culture grecque. Ce qui a amené à beaucoup d'erreurs, notamment en anthropologie, car nous avons traduit l'héritage biblique et sémite dans les catégories philosophiques grecques, ce qui nous a amené beaucoup de déviations. Et je peux vous dire aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup plus de gens qui étudient l'hébreu en France que de personnes qui étudient le grec. J'ai eu la confirmation de ça il y a 15 jours. Il y a 50 ans, dans les écoles de théologie, tout le monde étudiait le grec et il y avait des un ou deux farfelus qui étudiaient l'hébreu. Aujourd'hui, c'est plein de personnes qui étudient l'hébreu et plus beaucoup de personnes s'intéressent au grec. Et effectivement, il y a un retour ici à la tradition juive qui a une pensée unitive alors que les Grecs ont une pensée Platon, Aristote, Dioniste. Donc, dans ce rapport ici, Saint-Irénée de Lyon nous intéresse parce qu'il a une lecture sémite. Et Saint-Irénée de Lyon nous dit « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. » La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, ça veut dire l'homme qui est dans la rouare. Peut-être qu'il faut dire deux mots ici, parce que les prophètes étaient dans la rouare. C'est quoi la rouare? C'est le souffle. Donc dans le souffle. Et donc dans le dynamisme de vie, c'était des vivants. Et quand on les côtoie, les prophètes, ils sont vraiment vivants. Vivants à tous les niveaux, parce que quand on est vivant, on est capable de proclamer la parole, mais on est capable aussi de faire savoir ce qu'on pense. Donc, vivant. Alors, peut-être, c'est important de dire deux mots sur ça. Parce que, aujourd'hui, quand on dit qu'on est spirituel, à la limite, on va dire qu'on est capable de faire des bons mots spirituels. Mais la spiritualité n'a rien à voir avec ça. Ensuite, on dit spirituel parce qu'il y a une dimension de l'être humain que l'on dit spirituel. Oui, c'est l'expression d'un mot grec qui est nous. Et donc, qui dit ici l'intelligence contemplative ou le cœur profond, qui est une dimension de l'être humain, effectivement. Mais pour la tradition juive, on ne parle pas de ce cœur profond, si, le mot lève nous parle du cœur profond. Le mot lève nous parle du cœur profond. Mais quand Saint Paul, pharisien, fils de pharisien, très imprégné de tradition juive, nous parle d'anthropologie, en 1 Thessaloniciens 5, il nous parle quoi? Il nous dit quoi? Il nous dit que votre esprit, votre âme et votre corps soient trouvés irréprochables à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le mot esprit, il entend quoi? Il entend rouare. Et on a traduit par pneuma en grec. Vous savez que le pneuma a été prononcé une seule fois par Phaminide. Mais là, il est repris d'une autre manière. Il n'y a pas de mot en grec pour traduire rouare. Il n'y a pas de mot en grec pour traduire rouare. Et donc, il prend le mot rouare. Donc il dit, et c'est ce que dit Saint-Irénée de Lyon, que l'homme est vivant quand il participe à la vie. Excusez-moi, c'est simple, mais ça veut dire beaucoup de choses. Il est vivant quand il participe à la vie. Et il participe à la vie quand il se laisse imprégner par le rouare qui vient dynamiser le corps pour le rendre plus vivant, dynamiser la chair pour la rendre plus vivante, plutôt, dynamiser le nefesh ou bien la psyché pour la rendre plus aimante et dynamiser le cœur pour le rendre plus intelligent. Et donc, en fait, nous sommes inscrits dans une dynamique et ici, cette dynamique elle est inscrite dans Genèse 1:26, de l'image vers la ressemblance. Et dans cette dynamique, nous sommes en devenir d'être humain. Et ce devenir, il est le dévoilement de ce que nous portons en nous. Et ce dévoilement ne peut s'opérer que conjointement, grâce à l'esprit, au souffle, à la ruach, et d'autre part, à la juste disposition du cœur, comme j'ai exprimé à travers la parabole du semeur, la semence et des terrains. Donc, ici, il s'agit de devenir vivant, c'est-à-dire de se laisser pénétrer par le souffle, de se laisser spiritualiser par ce souffle. Et donc, c'est ça le sens du mot esprit. Et dire l'esprit, c'est dire que tout communique avec tout, que tout est en interrelation, et que, ici, tout est vivant parce que tout communique avec tout, tout interagit avec tout, tout interconnecte avec tout, et c'est ça le vivant. Et si on entend la spiritualité de cette manière-là, alors devenir être spirituel, ou en tout cas aspirer à la spiritualité, c'est devenir pleinement vivant et entrer dans la dynamique de vie avec une attention particulière à ce qui se passe entre. La ruach signifie ici nomme ce qui se passe entre. Il y a l'autre, il y a moi, ce qui se passe entre. Il y a l'autre, il y a pardon, le monde, il y a moi, ce qui se passe entre. Il y a Dieu, moi, et ce qui se passe entre. Et là, nous avons une dynamique extrêmement importante qui situe ici toute la dimension prophétique. Car le prophète est inspiré par Dieu. Mais l'inspiration, c'est la même chose que le souffle. Il reçoit le souffle, il est inspiré. Dans inspiré, vous avez l'aspiration, l'esprit. Donc il reçoit le souffle, il est inspiré. Et ici, comme il est inspiré, cette inspiration fait resplendir ce qui est déjà inscrit en lui. Entendez, quand le souffle de l'esprit nous pénètre, fait resplendir ce qui est déjà inscrit en nous. Tout est déjà inscrit en chacun de nous. Le processus de spiritualisation est un processus de dévoilement de ce qui est inscrit, mais je ne sais pas que c'est inscrit, et je vais le découvrir au fur et à mesure de l'inspiration. Et donc, tout vrai prophète est dans ce souffle. Et donc, s'il est dans ce souffle, il a conscience d'être un prophète. Et il a conscience d'être un instrument. Il a la conscience qu'il n'est pas à l'origine des messages, qu'il reçoit un message qui vient pas de lui, mais de beaucoup plus profond que lui en lui. Et donc, il est celui qui transmet. Et les prophètes disent « Ainsi parle Adonai » ou bien « Parole d'Adonai » ou « Oracle d'Adonai » qu'on traduit par « Seigneur », vous savez, et qui reprend le tétragramme divin qui est imprononçable. Donc cette parole qui leur est venue s'impose à eux, et ils ne peuvent la taire. Jérémie lutte en vain contre cette emprise. Il n'a pas d'autre choix que d'accepter la décision divine. De même, le prophète Ézéchiel fait l'expérience de ce que son destin a été décidé par Dieu dès avant sa naissance. Un jour de leur vie, ils ont été appelés d'une manière irrésistible par Dieu. Surtout, ils ont été choisis pour être des messagers. Et nous voyons dans l'histoire de Jonas, justement, ce qu'il en coûte de se dérober à la mission. Car Jonas va se dérober à la mission. Et donc, le statut du prophète ici va ouvrir sur un conflit intérieur. À savoir, il est celui qui entend la parole, mais il y a une chose ici. Ça nous concerne. Quand nous avons entendu la parole, nous ne pouvons plus faire comme si nous n'avions pas entendu la parole. Dans ce sens-là, Jésus-Christ nous dit « Si je n'étais pas venu, ils ne seraient pas dans le péché. Maintenant que je suis venu, ils sont dans le péché. Si je n'avais pas parlé, ils ne seraient pas dans le péché. Maintenant que j'ai parlé, ils sont dans le péché. Ainsi, ce n'est pas moi qui juge, mais ma présence, ma parole sont un jugement. Cela veut dire que si le Christ vient, on ne peut pas faire comme s'il n'était pas venu. S'il a parlé, on ne peut pas faire comme s'il n'a pas parlé. Si on a pris conscience, on ne peut pas faire comme si on n'a pas pris conscience. Si un prophète a entendu la parole, il ne peut plus faire comme s'il n'a pas entendu la parole. Ça veut dire que nous sommes responsables de la parole reçue et de la conscience activée. Le téléphone est d'accord. Et donc, ça ouvre sur un conflit, parce qu'ensuite, quand on a entendu cette parole, eh bien, il s'agit de se mettre en conformité avec cette parole. Et il peut y avoir des résistances. Et donc, il y a la résistance du prophète Jonas. Vous savez, Dieu demande à Jonas d'aller parler aux gens de Ninive. Et Jonas dit à Dieu, écoute, je vais y aller. Et puis, qu'est-ce que fait Jonas? Il se dérobe. Il prend un navire et il se cache au fond du navire. Il y a une tempête qui se lève et à ce moment-là, tout le monde est affolé et Jonas dit, c'est à cause de moi. Et donc, il dit qu'il a voulu fuir la parole de Dieu. Et il ne voulait pas aller auprès des Ninivites. Pourquoi? Parce que Dieu demande à Jonas d'aller auprès des Ninivites pour leur dire qu'ils vont subir des conséquences dramatiques de ce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu ou de ce qu'ils ne veulent pas revenir vers Dieu. Et Jonas, qui a très bien compris le mouvement divin, qui sait très bien que Dieu est plein de miséricorde, il sait qu'il va annoncer cette parole avec plein de menaces, que les Ninivites vont se convertir et que lui va passer pour un idiot. Il dit, Seigneur, j'en ai marre. Je ne vais pas passer pour un idiot parce que, voilà, je vais leur dire plein de choses tout à fait désastreuses et négatives, mais finalement, à la suite de ça, ils vont se convertir. Finalement, tout ce que tu avais prévu n'arrivera pas et moi, là-dedans, je passe toujours pour un imbécile, donc je ne vais pas y aller. Et c'est comme ça qu'ils fuient. Voilà. Mais Dieu le rattrape et à travers l'expérience du poisson ici. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un conflit ici, intérieur, en Jonas. Et le fait de toute la pédagogie qui est délivrée. Car on pourrait comprendre, à travers la lecture des prophètes, que Dieu fait sa justice et que, en fait, il annonce des catastrophes, mais il annonce les catastrophes pour ne pas qu'elles se réalisent. Je crois que nous pouvons entendre cela aujourd'hui. Parce que, en fait, je crois qu'il s'agit de voir la réalité d'aujourd'hui telle qu'elle est. Si on fait l'impasse, on ne fera rien. Mais si on prend acte de la réalité écologique, de la réalité économique, de la réalité financière, des réalités telles qu'elles se proposent, nous avons aujourd'hui des prophètes pour nous dire l'état des choses. Si nous prenons acte, nous allons peut-être œuvrer pour remédier à ça. Mais si nous disons, mais non, réchauffement climatique, mais non, disparition des espèces, mais non, et que nous nions cela, rien ne sera fait, et ce qui pourrait être prédit aujourd'hui pourrait arriver. Alors que si nous prenons acte, ce qui serait la conséquence naturelle de ce qui est aujourd'hui n'arrivera pas. C'est dans ce sens-là où il s'agit de lire ici tout l'avènement et la parole des prophètes, et donc la parole de Dieu à travers les prophètes, comme pédagogique, pour montrer que l'être humain, par son inconséquence, engendre des problématiques et finalement inscrit dans son histoire des drames. Et Dieu le rappelle en disant « Regarde ce que tu fais. regarde ce que tu es en train de faire, pour qu'il y ait une prise de conscience dans une dynamique pédagogique et qu'il y ait le retournement. Car certainement, à travers les prophètes, Dieu appelle à un retour, mais en même temps, il rappelle l'être humain à la responsabilité. Si le prophète rappelle la loi divine, ce n'est pas uniquement pour imposer cette loi, mais comme vous pouvez le lire dans le livre de l'Exode, dans le livre de Deutéronome, Dieu dit « Il est bon pour toi que tu pratiques la loi afin que tu sois heureux et que tu n'aies pas à subir les conséquences de tes actes inconsidérés. » Donc, non seulement le prophète rappelle la loi divine, mais par exemple dans Ézéchiel 18-20, Dieu rappelle l'être humain à sa responsabilité. Ce terme est très intéressant, parce que responsabilité contient le mot réponse. Et donc il rappelle à l'homme qu'il est capable de répondre, est capable de correspondre à la parole, est capable de mettre en mouvement la parole, afin qu'il vive. Vous vous rappelez cette parole de Dieu dans Ézéchiel. Dieu ne veut pas la mort de celui qui va vers la mort, de celui qui meurt, mais qu'il se convertisse, qu'il fasse teshuva, qu'il se retourne pour revenir vers la vie. Nous ne sommes pas ici sous un rapport du bien et du mal. Nous sommes sous un rapport de la mort et de la vie. Et je crois que toute la tradition biblique nous met face à cette réalité. Vous vous rappelez Deutéronome, chapitre 30, « Je mets en face de toi la vie et le bien, le mal et la mort, ne sois pas stupide, choisis la vie. » Donc, en fait, le Seigneur nous appelle à la vie. Et les prophètes sont envoyés pour rappeler la vie et rappeler aussi que la vie, elle n'est pas d'abord à l'extérieur, mais que la vie, elle jaillit du dedans de nous. La vie divine, elle est inscrite dans l'intériorité de chaque être et dans l'intériorité du monde. L'extériorité n'étant que les expressions de la vie. Mais il ne faudrait pas confondre les expressions de la vie avec la vie, ce qui serait une réduction panthéiste. Car toute la biodiversité du monde, toutes les galaxies sont l'expression de la vie, l'expression du rayonnement de la présence de Dieu dans le monde, mais le cosmos n'est pas la vie, mais la fleur n'est pas la vie, mais l'animal n'est pas la vie. Mais la vie habite chaque végétal, chaque animal, chaque mouvement du monde. Et donc, dans les messages, Dieu se fait pédagogue et guide son peuple par le mode du prophétisme. Il ne veut pas la mort du pécheur, il ne veut pas la mort de celui qui s'est égaré, il ne veut pas la mort de celui qui est dans le dynamisme mortifère, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Et il est celui qui appelle à toute justice, car Dieu veut certainement nous appeler à la vie, mais il veut aussi nous rappeler la justice. Donc, quelle est la justice ici, en Dieu ? Eh bien, la justice, elle est en particulier ici exprimée dans le prophète Zacharie, qui est un très grand prophète, où Dieu dit à Zacharie, « Ainsi parle le Seigneur Tsabaoth, revenez à moi, et je reviendrai vers vous. Ne soyez pas comme vos pères à qui les prophètes du passé lancèrent cet appel. Ainsi parle le Seigneur Tsabaoth, Adonai Tsabaoth, revenez donc de vos voies mauvaises et de vos actions mauvaises. Mais eux n'écoutèrent pas et ne me prêtèrent pas attention, oracle du Seigneur. Puis, dit Dieu, Ah, Zacharie, tu leur parleras en ces termes. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. Voici un homme dont le nom est Germe. Là où il est, quelque chose a germé. C'est magnifique. Ce passage est extraordinaire. C'est dire, nous sommes germes de la présence. Où il y a en nous germe de la présence et que nous sommes appelés à germer. Donc, ici, comment faire germer? D'une part, en nous ouvrant à cette dimension en nous, par l'écoute, par la disposition du cœur. Et puis, aussi, en nous disposant à l'amour. Et voilà comment la parole adressée à Zacharie exprime ce que Dieu veut pour que nous allions vers la vie. Parole de Dieu par Zacharie. Rendez une justice vraie. Pratiquez bonté et compassion envers chacun de vos frères. N'opprimez point la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas en votre cœur du mal l'un envers l'autre. Nous retrouvons dans les évangiles cela. Vous vous rappelez quand le Christ aussi lit le prophète Isaïe dans la synagogue, et il dit « Aujourd'hui, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, cette parole est aujourd'hui accomplie. » Donc ici, c'est l'avènement de la fraternité, l'avènement de la compassion, l'avènement de l'amour, et c'est ça qui est l'accomplissement de l'Alliance. Car Dieu veut nous guider vers l'application de sa volonté, qui est « Aimez-vous les uns les autres ?» Le Christ dira « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc ici, les prophètes rappellent l'Alliance. Les prophètes proclament la parole de Dieu pour inviter à revenir vers le dedans, pour nous rappeler cette Alliance scellée et toujours en nous, et revenir vers l'Alliance pour que nous allions premièrement vers une plénitude d'humanité, et la plénitude d'humanité, elle est en Dieu, Dieu avec nous, nous avec Dieu, et d'autre part, que nous puissions advenir dans la dynamique de l'amour, qui est un nom de Dieu. Ainsi, les prophètes sont les gardiens de l'Alliance, premièrement, parce qu'ils gardent l'Alliance au sens où ils rappellent l'Alliance, ils rappellent la loi, ils rappellent la pédagogie divine, ils rappellent cette Alliance scellée de toujours, donc ils ne sont pas ceux qui instituent l'Alliance, mais ceux qui rappellent l'Alliance et qui sont les gardiens de l'Alliance, et d'autre part, ceux qui aident le peuple à cheminer vers l'accomplissement de l'Alliance, qui se résume dans cette phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et on pourrait dire « Tu aimeras ton prochain, c'est toi-même ». Tu aimeras ton prochain, c'est toi-même. Car il y a une unité de toute l'humanité en Adam. Comme disait Victor Hugo, « Insensé qui croit que je ne suis pas toi ». Et donc nous sommes dans une coparticipation humaine les uns par rapport aux autres. Et c'est terrible que les conflits, car c'est oublier que ce que je fais à l'autre, je le fais à moi-même. Donc il y a une unité ontologique de toute l'humanité, et donc tu aimeras ton prochain, c'est toi-même. Et d'autre part, plus je vais vers moi-même, à la manière dont Dieu invite Abraham, l'er lera, va vers toi, pas vers le moi narcissique, mais vers toi, vers ta profondeur, vers ton être profond, aller vers soi-même, ici c'est aller vers Dieu en soi, aller vers soi, aller vers Dieu en soi, pour la Bible, c'est tout un. Et donc ici, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça nous invite à aller vers nous-mêmes, ce qui implique d'aller vers Dieu, et aller vers soi-même, c'est aller vers Dieu, et c'est conjointement aussi nous ouvrir à l'autre comme un autre moi-même. Et je terminerai, parce que je crois que je suis à peu près dans les... C'est bon. Voilà, parce qu'il est déjà 9h15, donc voilà. Terminerai par Martin Buber, parce qu'il dit bien cela. Il dit, le chemin commence en soi-même et il est retour à soi-même. Donc il s'agit de revenir à soi-même. Revenir vers Dieu, c'est revenir vers soi. Revenir vers soi, c'est revenir vers Dieu. Mais Martin Buber précise, si le chemin commence par les réconciliations avec soi-même, le fait de redécouvrir la dimension profonde de l'être en moi, le chemin ne termine pas par soi-même, mais il nous invite à aller vers l'autre, car l'autre est la possibilité de mon accomplissement. Je ne pourrai m'accomplir spirituellement que par l'autre. Et donc ici, c'est grâce à l'autre que je pourrai aller pleinement vers moi-même. Ça paraît contradictoire, mais la Bible adore les contradictions. Voilà, merci de votre écoute.
Merci. Merci beaucoup, Père Philippe. C'était superbe, c'était chaleureux, ça nous ramène justement à nous-mêmes. Et c'est en méditation, je n'avais pas dit le titre de la paracha que j'avais lu cette partie de méditation. C'était l'Ech Lecha. Justement. Et ça, on ne sait pas du tout, on n'a pas parlé tous les deux, on fait chacun. Et ça m'a touché beaucoup lorsque vous l'avez dit, parce que c'est cela aussi, c'est le va vers toi. Et toute la Bible est là-dedans, et dans l'amour, et nous dans le judaïsme, c'est toujours un tout petit peu plus difficile, ce sentiment d'amour, mais en même temps, si on lit la première lettre de Bereshit, le Beit qui se dit Veit aussi, et la dernière lettre, c'est Israël, c'est le El, le Lamed. Et si on l'inverse, puisqu'on s'amuse beaucoup avec les lettres hébraïques, on fait l'Ève, et vous avez parlé de l'Ève qui est le cœur. Donc en fait, toute la Torah, toute la Bible, puisqu'elle est à tout le monde aussi, elle parle d'amour et de tout ce que vous avez dit.
Avec au cœur,
le corpus des corpus. Ah oui, ça, bien sûr. Alors, je vais laisser la place, parce que j'espère que vous allez être nombreux à réagir.
Je vous remercie. Et j'étais très heureux que vous disiez « La fleur n'est pas la vie, l'animal n'est pas la vie, les poissons ne sont pas la vie. » C'est pourquoi, dans la Bible, Dieu dit le premier jour, quand il a créé tout ce qu'il a créé, le premier jour, la lumière, etc., ce fut bon. Le deuxième jour, il dit, ce fut bon. Le troisième jour, il dit, ce fut bon. Quatrième, bon. Cinquième, bon. Le sixième, il dit pas la même chose. Il dit, ce fut très bon. Tous, et pourtant, même si nous sommes ici ce soir, nous sommes tous d'accord, on voit bien qu'à l'extérieur, les discours de séparation semblent être extrêmement attractifs. Mais pas qu'aujourd'hui, depuis l'existence de cette humanité, depuis des siècles et des siècles, toutes les positions de division, de séparation, d'appel au rejet de l'autre, tous ces discours arrivent quand même aussi à porter, à attirer énormément d'êtres humains sur cette planète. C'est général, on pourrait faire un bilan de l'Amérique latine, un bilan de l'Afrique, un bilan du Proche-Orient, un bilan d'Asie, de l'Extrême-Orient, de l'Europe. Je sais, on parlera de cette dualité, mais comment se fait-il, alors que ça paraît si évident pour nous que par l'autre, je peux m'accomplir, comment se fait-il que depuis des siècles, sur cette planète, ces principes de séparation, de division, de distance, d'indifférence, aujourd'hui on parle même de communautarisme, d'impossibilité de vivre ensemble, comment ça continue à progresser alors que nous avons ces messages depuis 2000 ans? Depuis plus de 2000 ans, pardon, oh là là, depuis 6000 ans.
Je crois que je vais poser comme ça. Je crois que c'est très important de pointer tout ça parce que il y a un message biblique, il y a une aspiration, je crois sincère, de chaque être humain à une communion, à une unité, et en même temps, force est de constater que si nous regardons non seulement l'état du monde aujourd'hui, mais si nous regardons l'histoire, tout contredit. Donc je crois qu'il y a une ambiguïté profonde dans l'être humain. Parce que je crois que chacun de nous est porteur d'une aspiration profonde à l'unité, l'unité intérieure, mais l'unité avec les autres. Chacun aspire à vivre sur le mode de la relation et sur le mode de la qualité de la relation qu'est l'amour. Car qui, en tant qu'être humain, n'aspire pas à aimer et à être aimé? Chacun. Mais comme vous le savez, il y a des blessures, il y a des souffrances. Et en même temps, comment les guerres fratricides se sont développées dans le monde et nous sommes rassasiés des guerres fratricides. Alors, je voudrais dire plusieurs choses. Premièrement, je crois qu'il y a des mots qui sont dangereux. Premier mot dangereux, le mot séparation. Car, vous savez, avec ce mot séparation, on a séparé. Et dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, c'est ce mot qui est employé. Il n'est pas faux, mais il induit quelque chose qui est aujourd'hui problématique. Parce qu'aujourd'hui, quand nous entendons séparation, on parle par exemple des couples qui se séparent, on parle de rupture. Et donc, nous, dans notre oreille, le mot séparation, on l'entend comme rupture. Et si on entend comme rupture, c'est dramatique parce que nous vivons dans la rupture. Triple rupture. Rupture avec soi-même, rupture avec Dieu, et dans un univers laïque dans lequel nous sommes, nous le savons très bien, et rupture avec l'autre. Or, le terme approprié ici dans le livre de la Genèse n'est pas séparation, mais différenciation. Différenciation. Parce que dans la différenciation, il y a bien une séparation, il y a bien une distinction pleine et entière, mais sans rupture. C'est-à-dire, quand Dieu dit « Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Eretz » veut être Eretz, pardon, eh bien, dans le principe Dieu crée les cieux et la terre, il y a une différenciation cieux-terre, mais il y a une union profonde entre cieux et terre dans la différenciation. Donc il y a distinction et non-séparation, et en même temps séparation, mais non-rupture. Et donc ici, l'avènement du créé est un événement de différenciation, des polarités dans la perspective du mariage des polarités. Et donc, si on met la rupture, on entre dans un dualisme. Et nous rentrons dans une dynamique d'opposition irréconciliable, dramatique. Premièrement. Deuxièmement, donc, en fait, si on peut décliner, Dieu différencie ciel-terre, puis après il va différencier lumière-ténèbre, eau d'en haut, eau d'en bas, sec-humide, masculin-féminin, autant de polarités qui vont être révélées pour des mariages. Donc nous sommes invités à des mariages successifs. Donc il y a toutes les dynamiques des épousailles dans la Bible. Hein. Voilà. Ensuite, deuxièmement, la guerre fratricide, ben, nous avons l'archétype avec Caïn et Abel. Dramatique. Deux frères. Mais nous sommes tous frères et sœurs en humanité. Et donc, cela dit ici un point très important. Je voudrais un peu décrire parce que, voilà, qu'est-ce que nous dit la Bible pour dire la violence meurtrière? Elle nous parle de Caïn et Abel. Comment? Par le fait que chacun des deux présente une offrande à Dieu. L'offrande d'Abel est regardée par Dieu, l'offrande de Caïn n'est pas regardée par Dieu. Et ça s'enflamme en Caïn, ça bouillonne, il se sent victime d'une injustice. Et donc, il y a toutes les énergies, j'ose dire animales et archaïques, qui commencent à bouillonner à l'intérieur. Et magnifique passage, Dieu intervient. Et Dieu intervient et il dit, Caïn, si tu élèves la tête, il s'agit d'entendre ici, si tu élèves ton niveau de conscience, si tu rentres dans l'intelligence de ce qui se passe, tu verras, tout est en ordre, et il y a une pédagogie ajustée par rapport à toi-même. Donc si tu me fais confiance, c'est Dieu qui parle, il y a une pédagogie ajustée. Mais si tu ne fais pas confiance, fais attention parce que tu vas être livré à tes pulsions et tes animaux intérieurs, et là, tu as encore la possibilité, troisièmement, de dominer sur eux. Mais, comme vous savez, Caïn va se renfrogner et tuer le frère. En quoi Abel est-il responsable du fait que Dieu n'a pas regardé l'offrande d'Abel? En quoi Abel est responsable? Il est le premier juste, celui innocent. Qui n'y est pour rien dans cette histoire, mais c'est lui qui paye. Alors ici, on peut regarder une chose. C'est que il y a une blessure chez Caïn, son offrande n'est pas regardée. Peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles son offrande n'est pas regardée. Caïn, en hébreu, c'est celui qui croit posséder le yod. Alors peut-être qu'il se croit déjà arrivé là où il n'est pas. Aveugle, ça signifie le rien. Donc on peut lire des choses ici. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans la relation entre Dieu et Caïn, qui n'est pas assumé par Caïn, et qui porte la conséquence sur le meurtre du frère. Je crois pouvoir dire une chose, c'est que si je ne m'assume pas dans ma vie spirituelle, dans la réponse à l'appel de Dieu, peut-être cette énergie qui n'est pas employée au service de l'accomplissement et la conquête du royaume des cieux va se retourner contre l'autre. En tout cas, c'est ce que les pères de l'Église chrétienne vont dire, et c'est comme ça que les pères de l'Église vont jusqu'à dire que le Christ s'est fait le nouvel Abel. Il prend sur lui les péchés du monde pour libérer l'homme de la colère contre Dieu, un sentiment d'injustice, parce que l'homme manque d'humilité. C'est ma deuxième réponse. J'en ai une troisième encore. La troisième, c'est le fait que nous avons quitté, je dis nous en général, l'être humain, comme il a quitté son intériorité, par laquelle il pourrait percevoir que tout est un, il s'est projeté dans le monde et voit tout d'une manière fragmentée. Regardez, depuis le XVe siècle, la fragmentation de la connaissance. Regardez la subdivision, comment on a tout compartimenté. Jusqu'en médecine, où il y a des spécialistes du cœur, il y a des spécialistes ORL, spécialistes des reins, spécialistes des pieds, spécialistes de... etc. D'accord ? Et donc, pardon, je vais y arriver, il y a une fragmentation ici. Et cette fragmentation, elle est aussi tout à fait évidente quand on regarde les ethnies et les conflits interethniques, les cultures et les conflits interculturels, les religions et les conflits interreligieux, etc. Et donc, en fait, il y a ici une chose, c'est que quand l'être humain se projette à l'extérieur, il est sous l'emprise du mental qui, lui, voit tout fragmenter et qui considère l'autre non comme un frère, mais premièrement comme un rival, Cain et Abel, puis comme un concurrent, le monde de l'économie ne nous dit pas autre chose, puis finalement comme un ennemi, et comme celui qui finalement devient je dirais un obstacle à mon propre intérêt, à mon propre épanouissement, etc. Et donc nous avons ici une projection extérieure absolument dramatique. Et c'est le fait que nous sommes montés dans l'analyse mentale et dans le fait d'une projection extérieure qui nous a fait perdre complètement la réalité profonde d'une unité de l'humain, d'une unité du genre humain, c'est-à-dire de toute l'humanité, et de l'unité du vivant. La crise écologique, elle n'est pas qu'une crise environnementale, puisque le cosmos ne représente pas un environnement pour nous. Nous sommes microcosmos. Nous sommes partie prenante de la nature, nous sommes des êtres naturels. Et malgré une théologie qui s'est développée, nous ne sommes pas des êtres supranaturels, mais avant tout des êtres naturels. Nous sommes totalement constitués de la nature. Et nous avons 98% de commun avec les singes, les grands singes, et 95% avec la souris, et, etc. Et tous les règnes végétaux, minéraux et animaux sont en nous. Nous sommes constituants. Donc l'environnement, c'est pas un environnement. Je suis le cosmos et je porte en moi-même toute la dynamique cosmique. Et donc le cosmos n'est pas un environnement, il m'est co-naturel. Et donc là aussi, nous avons fait une fragmentation, nous avons pensé l'homme par rapport à l'autre, l'homme par rapport au monde. Mais nous sommes partie prenante de l'autre et nous sommes partie prenante du monde. Nous sommes constitués des mêmes éléments que l'autre. Vous vous rappelez Isaïe 58 ? Souviens-toi, ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Mais, voilà, comme nous n'avons pas l'expérience intérieure pour le reconnaître, alors nous croyons que l'autre est un ennemi. Mais l'autre est constitutif de moi-même. Et donc, ce que je fais à l'autre, je le fais à moi-même. Simplement, ça demande une teshuva. Et je crois que la plus grande urgence aujourd'hui, et ça c'est de tous les temps, puisque tous les prophètes ont toujours appelé à teshuva, le Saint Jean-Baptiste, le dernier des prophètes que je n'ai pas nommé, mais j'en profite maintenant, rappelle quel est le premier message de Jean-Baptiste ? Teshuva. C'est-à-dire, reviens. Parce que tous les malheurs du monde et les drames du monde viennent de cet exil. Nous sommes exilés de nous-mêmes, nous sommes projetés sur l'extérieur. Et maintenant, il s'agit de vivre l'exode, c'est-à-dire de revenir vers l'intérieur, vers la terre promise, qui est à l'intérieur de nous. Et donc, en fait, ce que je voudrais dire en conclusion de ces trois éléments, chacun de nous est responsable. Je crois qu'il ne faut pas ici dire les autres, il ne faut pas dire les politiques, il ne faut pas dire, etc. Je crois que nous allons vers un avenir joyeux que si chacun prend sa responsabilité. Et j'entends derrière ce que j'ai dit tout à l'heure, si chacun commence à correspondre à l'appel de Dieu pour lui. et ensuite prend sa responsabilité au niveau éthique, et sa responsabilité au niveau moral, etc. Et je crois que la réponse de tout ça, c'est que si on veut plus de violence dans le monde, si on veut que chaque être humain soit respecté, il faut commencer par soi-même. Et donc, soi-même à revenir, et soi-même à entrer dans la compassion, plutôt que dans la concurrence, à entrer dans la considération des plus petits. Ce que vous avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et puis je te rappelle, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça veut dire à l'Adam, puisque le Christ est l'Adam. Donc ce que l'on fait à chacun des petits, c'est à l'être humain qu'on le fait, et c'est à l'être humain, c'est à moi aussi. Donc je crois que, voilà, il y a un appel à la métanoïa, mais c'est toute la Bible. Cet appel à Teshuva, à la métanoïa, à la conversion, et qu'est-ce qui est dit à travers cela ? Dit, ce n'est pas moi, Dieu, qui suis responsable de l'état du monde, c'est vous, parce que vous ne voulez pas entendre que je suis là pour la vie et que je veux vous libérer de la mort et de tout ce qui est mortifère en vous. Pardon. Vous voyez ? Donc le message est puissant, mais c'est le message des prophètes, et on est totalement là. Et aujourd'hui, il y a des prophètes pour le dire. Simplement, il s'agit d'entendre. Il s'agit d'entendre, mais il ne s'agit pas simplement d'entendre du point de vue extérieur, il s'agit de l'entendre du point de vue intérieur. Vous savez, par exemple, en écologie, eh bien, on sait qu'il y a des problèmes écologiques. Mais, comme le disait, je ne sais plus qui d'ailleurs, parce que c'est Yann Mathieu Bertrand qui le répète, mais ça ne vient pas de lui, je ne sais plus qui l'a dit en premier, mais on ne veut pas croire ce qu'on voit. On ne veut pas croire ce qu'on entend. Parce que quand je regarde dehors, finalement, les oiseaux chantent, le cosmos paraît en bonne forme, hein, mais c'est dans l'eau, c'est dans ce qui ne se voit pas qu'est la problématique. Eh bien, c'est bien ça le problème. C'est qu'on se fie à ce qu'on voit. Alors que, ici, il s'agit de se fier à ce qui est dans les profondeurs de la réalité et qui ne se voit pas. Et donc, vous voyez ici, ça nous concerne dans le fait d'un appel à la responsabilité et dans le fait aussi d'ouvrir les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. C'est Martel des Évangiles, le Christ dit « Ouvrez les yeux pour voir et ayez les oreilles pour entendre. » Pas entendre la parole qui est prononcée extérieurement, c'est entendre ce qui est dit et l'entendre de telle manière que ça va se transcrire dans des actes. Voilà.
Ça nous est bien dit et répété. Écoute, écoute Israël, Shema. Et ça, vraiment, c'est dit tous les jours, plusieurs fois par jour, dans nos prières, mais c'est pour tout le monde. Mais c'est une écoute vraiment intérieure. Puis je crois qu'il y a l'oubli. Il y a vraiment l'oubli parce que l'autre fois, nous revoyons des documentaires des années d'il y a 30 ans en arrière, il y a 40 ans en arrière, dans les champs, il y avait des quantités de coquelicots, de bleuets, de fleurs qu'il n'y a plus maintenant dans les blés. Parce qu'il y a les pesticides. Voilà. On est très technique, mais c'est tout ce que vous avez dit derrière. On a oublié, on n'écoute plus, on s'habitue à ce que l'on vit. Je pense qu'on n'écoute pas des faux prophètes, mais on écoute la télévision, les médias, qui sont vraiment là, des faux prophètes. C'est catastrophique. Et on oublie de s'écouter, ça c'est sûr. Et c'est pourtant très très important. Alors il y a des méthodes aussi pour ça. Je pense que vous nous enseignez certainement dans vos séminaires, ils existent. Il y a beaucoup de possibilités pour cela.
Par rapport aux méthodes et aux techniques possibles, je voudrais juste dire une chose. C'est le fait qu'il s'agit de retrouver la relation entre l'intelligence et le cœur. Or, l'intelligence pense et le cœur est sain. Ce qui veut dire réintroduire une dimension qui était rejetée par un certain christianisme, du fait de la sensation. La sensation faisait peur. Sentir intérieurement. Or, en fait, quand nous sommes en face de quelqu'un, nous ressentons la personne. C'est-à-dire, nous écoutons ce qu'elle dit, mais en même temps, nous captons plein de messages qui émanent de sa façon d'être, qui émanent de son comportement, qui émanent de, voilà, de comment elle exprime les choses. Et donc, comme nous sommes dans la nature, il est clair que nous sommes informés par la sensation intérieure. Et donc, s'il s'agit de revenir vers le cœur, il s'agit de revenir vers la sensation. Ce qui veut dire sentir la parole, ça veut dire se laisser toucher par la parole, se laisser pénétrer par la parole, mais ça veut dire sentir la parole, c'est-à-dire, en fait, l'éprouver dans une expérience intérieure. Sinon, elle reste extérieure, mentale, et à ce moment-là, on va amener des citations, et quelquefois, on propose des citations pour justifier des choses qui sont contraires à tout l'esprit de la Bible. On retire des paroles, mais on les replace pour dire le contraire de ce que dit la Bible. Et ça ne pourrait pas se faire si, justement, on passait par le cœur, par la sensation, par le fait de sentir, par le fait d'éprouver dans l'expérience intérieure. Ça, voilà, au-delà de d'autres techniques, ça c'est fondamental. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, la crise écologique nous invite à nouveau à entrer dans une dimension du sens, qui est quoi ? Qui est la possibilité d'intérioriser le monde en nous et de découvrir le lien symbolique que représente le monde par rapport à Dieu.
Mais je voulais dire un petit mot sur son avis à propos du cœur, on en a parlé tout à l'heure, Hélène également, qui se dit donc lève, puisque c'est les premières, les dernières lèvres de la Torah. Et on a parlé également d'aller vers toi avec le mot l'air. Alors on voit que finalement il n'y a qu'une lettre qui différencie lève et l'air. Et ce qui est curieux aussi, c'est qu'on trouve lève dans une phrase de Jésus qui dit lève-toi et marche. Et finalement, dans lève, on va vers l'autre. Lève-toi et marche, c'est aussi marcher vers l'autre, vers cette intériorité également. Et je voulais juste souligner cette petite phrase.
Patrick, notre maître kabbaliste pour les lettres hébraïques et pour les jeux, mais au beau sens du terme, de mots, et il nous fera cela d'ailleurs pour l'Assemblée Générale sur le mot « rite ». Sur l'alliance, il va nous faire un petit travail. Et là, voilà, c'était. Avez-vous quelque chose à ajouter ?
Moi, je voulais vous remercier beaucoup aussi, c'était, mais je veux le redire. D'abord, vous remercier pour l'ouvrage que vous avez sur la table. C'est un des ouvrages. Je vais peut-être le montrer parce que. Voilà. Parce que cet ouvrage, un des livres de chevet, qui est toujours à la portée de mes yeux et de mes oreilles, parce que c'est ce qui me permet de tisser et de retisser mon espérance. Tisser et retisser sont deux mots qu'on retrouve régulièrement dans cet ouvrage. Je voulais vous remercier aussi parce que on sait chaque fois, mais peut-être encore plus accentué que d'autres fois, votre conférence montre la justesse du choix qui a été fait de vous inviter. Au sens où ce que vous avez dit s'inscrit vraiment dans la raison d'être de l'amitié judéo-chrétienne. Vous avez eu constamment le souci de rappeler l'importance fondatrice des textes de nos amis juifs. Moi, je ne suis pas juif, je suis protestant. Vous avez montré, non, vous avez parlé de l'étymologie de certains mots, Brit, Hesh, l'alliance. Vous avez rappelé toute l'importance des Midrashim. C'est une manière de rendre hommage à nos frères juifs et aux maîtres du judaïsme. Je voudrais, j'ai énormément apprécié aussi, je dirais, alors les mots honnêteté, courage, vérité et justice. Parce que c'est pas très souvent qu'on entend quelqu'un d'une tradition qui met un peu en cause sa propre tradition. Quand vous avez dit, vous avez souligné combien il était heureux de revenir à la tradition juive en disant que le renoncement durant tant de siècles, renoncement à la tradition juive au profit de la lecture grecque, a provoqué des déviations et a conduit à des contresens terribles. Et ce n'est pas souvent dit par nous chrétiens. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez commencé avec l'aventure, le vent. C'est une invitation pour moi, mais je l'avais déjà trouvée dans votre ouvrage avec d'autres mots, à considérer le vent non pas comme une invitation à nous laisser réduire au statut de girouette, et on a plein de preuves en ce moment dans le domaine politique et médiatique, mais à offrir les oreilles de notre cœur, vous avez employé le mot, au vent, pour qu'il nous inscrive dans une dynamique de vie, pour conduire notre vie comme une aventure au sens le plus édifiant. Et dès le départ, vous avez inscrit cette dynamique pour la conférence. Donc merci infiniment. Je vais en venir maintenant à une question qui pour moi est une vraie question. La question des prophètes et des prophéties d'aujourd'hui. Avant même que vous disiez, ça s'est dit tout à la fin dans le jeu des questions-réponses, j'avais noté, y a-t-il des prophètes contemporains ? Alors vous avez dit, oui, il y a des prophètes. Alors moi je voudrais savoir qui sont les prophètes d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des prophètes aujourd'hui ? Et comment est-ce qu'on peut les discerner ? Et discerner des prophéties qu'ils nous délivrent ? Ou alors est-ce qu'il faut rechercher en quoi et comment les prophéties d'hier peuvent nous éclairer sur la vérité du moment présent, en quoi les prophéties d'hier peuvent être reçues comme un présent au sens de cadeau pour vivre notre présent de façon responsable des conséquences, ce sont des mots que vous avez utilisés et qu'on retrouve très souvent encore dans votre ouvrage, responsable des conséquences en nous attachant ce que vous appelez dans votre livre la garde du cœur, la garde du cœur qui s'opère notamment par la vigilance constante. Voilà, je vous remercie.
Merci, c'est pas une mince question. Je crois que déjà j'ai de quoi m'attabler, donc si on veut y aller, voilà, c'est une grande question. Pour aborder cette question-là, je vais parler de l'Apocalypse qu'on prévoit pour 2012, vous savez l'Apocalypse. Alors très bien, allons-y. Oui, voilà, en tout cas je vais l'introduire pour les prochaines. Voilà, donc Apocalypsis en grec veut dire révélation, dévoilement, et je prends ici comme départ cela, car les prophètes n'ont fait que dévoiler la parole de Dieu, ou de faire entendre au monde la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu, nous sommes chacun gardien de cette parole. Et les prophètes sont là pour nous dire à l'extérieur ce qu'on ne sait plus entendre à l'intérieur. Et donc, ici, il ne faudrait pas se tromper. J'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, je suis passé très vite, parce que je ne peux pas tout faire dans une conférence. Mais voilà, par la question, ben, ça m'y fait revenir. le fait que les prophètes ne sont pas ceux qui annoncent l'avenir. C'est ceux qui dévoilent la réalité du temps présent. Simplement, en dévoilant le temps présent, ils dévoilent les logiques du temps présent. Et ils disent, si vous gardez cette logique, vous allez naturellement dans les conséquences de cette logique. Si on veut repérer aujourd'hui les prophètes, il s'agit d'abord de voir qui parle du dévoilement de la réalité d'aujourd'hui. Qui exprime la réalité telle qu'elle est sous-jacente à toutes les problématiques. Donc, je crois qu'il y a déjà une question de vérité. Or, pour la Bible, la question de la vérité est une question de transparence. La vérité est transparence. Et donc, transparence, dévoilement, ça marche ensemble. Et donc, le prophète, il est celui qui fait une lecture actuelle de la réalité, mais qui soulève les voiles de l'opacité pour nous montrer la réalité telle qu'elle est, et non pas telle qu'on veut bien la voir, telle qu'on veut bien l'entendre, telle qu'on la dénie en partie, telle qu'on la trafique. Vous voyez ça? Donc, en fait, la question, on peut essayer de nommer des prophètes, mais ce n'est pas vraiment la question. La question, c'est de savoir entendre les prophètes. Mais je retourne les choses dans l'autre sens. Pour entendre les prophètes, il s'agit soi-même d'aller vers sa profondeur, vers les dévoilements intérieurs, et donc d'aller vers cette transparence pour savoir entendre ce que certains disent aujourd'hui. Et il y a des prophètes. Mais je crois que Dieu parle par des êtres qui ne sont pas forcément inscrits dans une tradition aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il y a des personnes aujourd'hui qui font une lecture de la réalité actuelle sans complaisance et qui sont tout à fait inscrits dans la logique prophétique au sens où, à leur insu, quelquefois, c'est Dieu qui parle par eux. Moi, je vois, par exemple, en économie, un Patrick Vivray, voilà, et un athée à qui j'aurais tiré les oreilles, c'est Edgar Morin, parce que j'aurais tiré les oreilles, parce qu'en fait, il dit qu'il est athée, puis il cite toujours l'Écriture sainte, et puis il s'inspire des traditions spirituelles, il replace les éléments, il parle de la Trinité, il parle de la transparence, il parle plein de choses. Hein. Le chemin d'espérance, la communauté de destin, pour pas dire la communauté de nature, etc. Enfin, voilà. Vous voyez, alors on voit des êtres comme ça, et quand ils ont une lecture de la réalité aujourd'hui, c'est très intéressant. Et de fait, ils nous disent aujourd'hui, un Pierre Rabhi, par exemple, voilà, vous voyez. Voilà, c'est des gens qui... Pierre Rabhi ne dit pas qu'il est chrétien. Lui, il dit que, voilà, il a sa foi personnelle. Pour autant, moi, aujourd'hui, comme chrétien, je peux reconnaître des prophètes à la barbe, peut-être, des religions. Hein. Alors ça, voilà, c'est encore le chapitre, cette question. Mais il y a là quelque chose qu'il s'agit d'entendre, en tout cas. Et cet appel, si je cite ces trois personnes, c'est qu'ils font un appel clair pour sauver la vie. Et dans ce sens-là, pour moi, voilà, il s'inscrit dans ce courant prophétique. Même si ça n'a pas les mêmes allures qu'autrefois. Voilà. Et je crois qu'il y a ici une dynamique prophétique, une dynamique de révélation. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Autant nous allons vers un effondrement d'un monde, autant et aussi fort, nous sommes dans le dévoilement. Ce week-end, j'étais donc à Sainte-Croix, et en présence d'Annick de Sezemel, qui était avec nous, parce que j'avais invité deux intervenants, Un est un grand scientifique de réputation mondiale, il s'appelle Bassaram Nicolescu. Il est un scientifique de physique fondamentale. Il connaît la profondeur de la matière. Il a inscrit un livre reconnu par la communauté scientifique mondiale sur qu'est-ce que la réalité, en nous parlant d'un réel voilé, en nous disant que le fond des choses est insaisissable et que la science ne pourra jamais atteindre au fond de la réalité et qu'elle doit renoncer à toute prétention à la connaissance du réel. C'est pas rien. Et puis, il a mis en place un mouvement, toute une lecture magnifique du réel. Et je l'avais invité en dialogue avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est le père Thierry Magnin, qui est donc recteur de l'Université catholique de Lyon, qui a 2 doctorats en sciences, qui a 1 doctorat en théologie, donc il est très, très aisé sur... Il a beaucoup d'aisance sur les 2 domaines. Eh bien, ils nous ont parlé aujourd'hui, là, ce week-end, ils nous ont dit comment science confine aujourd'hui vers la métaphysique et que les implications métaphysiques des découvertes scientifiques du XXe siècle nous ouvrent sur un nouveau paradigme et, d'autre part, convergent avec les dimensions les plus profondes des grandes lignées spirituelles, à savoir la dimension apophatique, car on peut dire ce que Dieu est, mais Dieu est transcendant à tout ce qu'on peut dire de lui. On peut essayer de dire ce que la matière est, mais la vie est transcendante à tout ce qu'on peut dire et de la matière et des organismes, etc. Et j'avais l'impression de vivre un moment très particulier où je voyais ici un bascule. Nous sommes passés d'une prétention scientifique à vouloir tout connaître, et Lavoisier disait, déjà au XIXe siècle, nous n'avons plus besoin de l'hypothèse de Dieu. Au fait, d'une science qui est aujourd'hui en train de s'agenouiller comme les mages devant le Christ, et qui est en train de reconnaître que plus on s'avance vers la connaissance, et nous n'avons jamais autant connu la profondeur de la matière, plus le fond des choses nous échappe, plus nous savons, à travers Heisenberg, Gödel, qui est un grand mathématicien, que nous, définitivement, le fond des choses nous échappe, et que tout cela nous fait converger, du point de vue spirituel comme du point de vue scientifique, vers la dimension du mystère, c'est-à-dire de ce qui ne se dit pas, ou de ce qui ne peut pas se dire, et de ce qui est insaisissable, inconnaissable, transcendant. Et là, je trouve que, voilà, c'est l'émergence ici d'un prophétisme, et qu'en fait, cette alliance, elle est là, scellée dans le mystère, que nous ne devons pas cesser de chercher à saisir, mais qui en même temps nous échappe, et c'est ça la course folle, et un père de l'Église du IVe siècle disait que la vie spirituelle est cette course folle de commencement en commencement qui passe par des commencements qui n'auront jamais de fin. Et donc, nous sommes inscrits là dans une dynamique de vie qui ne s'arrêtera jamais, et c'est ça la bonne nouvelle. Voilà, jeudi, je vous conseille, Père Thierry Magnin, jeudi à quelle heure ?
À 16h.
Jeudi à 16h.
C'est la deuxième partie de la conférence.
Voilà. Moi, j'ai beaucoup de respect pour cet homme-là qui essaye de faire sa part, parce qu'il est aussi spécialiste du clergé catholique français sur la bioéthique. Et il vient d'ouvrir à Lyon un département de bioéthique en partenariat avec les biologistes et les généticiens scientifiques. Donc c'est important d'impliquer ces gens-là, c'est quand même pas rien. Il vient d'ouvrir un département science et foi avec l'université laïque à l'université universitaire de Lyon. Vous voyez. Et donc, il est dans ce dialogue-là, et là, il essaye d'inscrire dans ce qui est possible aujourd'hui et ce qui était impossible hier, un dialogue avec le milieu scientifique pour les sciences de la vie et les choses qui sont les plus essentielles pour les recherches sur les nanotechnologies, sur la biotechnique, sur le post-humain, sur tous ces éléments-là. Et donc, je trouve que qu'il puisse arriver à faire ça aujourd'hui, que les scientifiques consentent à une telle coopération, c'est un signe pour moi que nous sommes en train de basculer vers un monde nouveau. Et donc, je crois que nous avons besoin, le monde nouveau a besoin de nos prières, parce que c'est pas gagné tout ça, mais quand même, on voit des petites choses émerger ici, et c'est, pour mon avis, c'est plein d'espérance. Voilà. Donc voilà, pour moi, ce sont plein d'éléments prophétiques.
Je voudrais donner une précision par rapport à ce qu'a dit Marie-Lou. Alors, bien sûr, il y a toujours la discrimination entre ceux qui ont accès à Internet et ceux qui ne l'ont pas. Pour ceux qui ont accès à Internet, il faut savoir qu'on n'est pas obligé de rester à 16 heures devant le poste, puisque RCF a fait un travail extraordinaire depuis un peu plus d'un an, depuis le 1er mars de l'année dernière, que toutes les émissions qui sont diffusées sur les antennes de RCF sont accessibles, y compris la prière quotidienne. Et donc l'émission la première émission de Thierry Magnin et la deuxième pourra être récupérée via ce qu'on appelle les podcasts, les téléchargements. Et c'est d'ailleurs grâce à RCF que j'ai découvert le père Philippe Dauté et que j'ai eu envie d'acheter son ouvrage. Donc ayez le réflexe d'aller voir sur RCF pour faire le téléchargement, pour simplement s'inscrire. C'est gratuit, parce que sinon on ne peut pas télécharger. Et puis j'en profite pour faire ce qui ne clôt pas du tout le jeu des questions, mais puisque j'ai le micro, pour refaire encore, parce qu'il y a beaucoup de têtes nouvelles ce soir, la publicité pour le site de l'amitié judéo-chrétienne de France, où il y a une richesse extraordinaire, où il y a toutes les sensibilités, où il y a aussi la possibilité de réécouter les conférences qui sont données ici, même si on peut les avoir via erfansi.org, qui est le site de la paroisse protestante réformée. Mais sachez que sur le site de l'amitié judéo-chrétienne, il se passe toutes les semaines. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, à la lettre hebdomadaire, il se passe toutes les semaines quelque chose d'extrêmement important. Il y a des articles vraiment lumineux de toutes les sensibilités.
Merci Norbert de faire cette publicité. Et il est vrai aussi qu'il y a un aspect prophétique pour l'amitié judéo-chrétienne. Je voulais le dire parce que j'ai hésité dans la lecture à vous parler du grand rabbin Kaplan, qui a été un des fondateurs avec Jules Isaac, en tant que laïque, avec Edmond Fleg et d'autres, a créé l'amitié judéo-chrétienne au sortir de la guerre. Mais tout le monde, parce que là, il y a une revue spéciale, la JCF, qui a été demandée par la famille Kaplan, la famille du grand rabbin, qui est décédé maintenant en 94, à 99 ans. Il a fait toute une grande vie extraordinaire, cet homme. Il est vrai qu'ils ont dit c'était un prophète. Alors j'ai failli lire quelques belles phrases qui ont été données par le monde chrétien, le monde protestant, enfin catholique, protestant, orthodoxe, le monde juif bien sûr, et tous disaient c'était un prophète. Et je crois que voilà des prophètes, ce sont des personnes qui sortent comme cela de l'ombre, qui se dévoilent et qui vont, oui, vers leur intériorité et qui savent aller vraiment vers les autres. Son histoire est remarquable. la famille a demandé 1500 petits livres de CD Sens. Hein. Il y en a de distribués partout. Moi, j'en ai eu un comme président de l'amitié, mais on peut en avoir, bien sûr, parce que c'est une belle histoire, comme l'histoire d'un prophète quelque part. Alors, il y en a, oui, il y en a des prophètes. Oui.
Mon père, si j'ai bien compris et saisi votre message, c'est que c'est le cœur qui commande à l'esprit et non pas le contraire. Et lorsque on prie le Seigneur et qu'on lui demande son Esprit Saint pour être éclairé, si on a une réponse, il me semble, en tout cas, c'est ce que je ressens, qu'elle se fait d'un cœur à l'autre. Voilà. C'est tout simple, mais c'est de tout cœur.
Je voulais poser une question qui revient malheureusement un petit peu en arrière et qui rebondit sur votre intervention et votre étonnement de constater que les hommes, malgré ce langage qui semblait assez clair, assez évident de participation, de bons sentiments, eh ben, on se plante encore et puis c'est bien un langage de séparation. Et dans votre réponse, vous avez abordé trois thèmes. Il y en a un que j'ai pas bien, peut-être pas entendu, mais c'est cette conscience qui se bat contre l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu, qu'on appelle le séparateur, qu'on peut appeler le démon, qu'on peut appeler ce qu'on veut, mais qui est un esprit qui, me semble-t-il, est extérieur à moi-même et qui déploie des quantités de stratagèmes pour gagner son territoire. Donc la responsabilité individuelle auquel vous faisiez allusion, comment est-ce qu'elle se conjugue, situe par rapport à cette intervention extérieure à lui, qui est l'enjeu du monde. Le monde est un enjeu entre ce séparateur et Dieu.
D'abord, sur la question du cœur et de l'intelligence. Bien sûr que c'est par le cœur que ça passe, mais attention. Attention que, passant de la raison au cœur, nous ne relativisions pas la raison par rapport au cœur. Alors, attention. Ce que je voudrais ici dire, c'est toute la dynamique biblique et la dynamique de l'Évangile. C'est « et ceci, et cela ». Ce n'est pas « on a fait une erreur parce qu'on est entré dans la raison résonante et on a oublié le cœur, et maintenant il s'agit d'aller vers le cœur en oubliant la raison ». C'est pas un cœur contre la raison, mais tout contre. Ça veut dire que il s'agit d'être un être raisonnable et un être de cœur, les deux. Je crois que c'est important de le préciser, hein, parce qu'il ne faudrait pas ici s'enflammer pour... Voilà, donc ça veut dire avoir un cœur intelligent et une intelligence du cœur. Voilà. Les deux liés, et la tradition chrétienne, dans son premier millénaire, insiste beaucoup pour l'union de l'intelligence avec le cœur. Donc ça veut dire un cœur qui ne soit pas séparé d'intelligence et une intelligence qui ne soit pas séparée du cœur. Voilà. Donc, juste une précision comme ça. Ensuite, sur ce fait du diabolos, puisque c'est de celui-là dont vous voulez parler, mais celui qui sépare et qui divise, parce que diabolos, ça veut dire celui qui divise. Alors je crois il est très important de resituer cela. Je pourrais vous dire une chose, c'est que au premier siècle, il y a eu des fous qui sont partis au désert au quatrième siècle, qui s'appelaient les pères du désert. Et ils ont été les fondateurs du monachisme chrétien, autant catholique qu'orthodoxe. Au désert, il n'y avait pas de clôture, il n'y avait pas de règles. Mais tous ceux qui arrivaient au désert se devaient de se confier à un ancien dans un dévoilement des pensées en vue du discernement des esprits. Là, il y a une science de la tradition hésicaste et philocalique. Et donc, c'était une éducation du disciple vers le discernement des esprits, qui rejoint la garde du cœur qui a été évoquée. D'accord. Donc, dans cette tradition, qui est une tradition de l'expérience, confirmée par 15 siècles de tradition chrétienne, il est mis en évidence que le diabolos ne peut pas agir en nous malgré nous. Le diabolos ne peut pas s'imposer à nous. Même Dieu ne peut pas s'imposer à nous. La liberté de l'homme, ça veut dire qu'on peut faire même échec à la volonté divine. C'est pas rien. Et si on peut faire échec à la volonté divine, bien plus à la volonté du diabolos. Donc, il n'y a pas de puissance extérieure qui nous soit contraignante. Ça veut dire que si le diabolos peut agir en nous, c'est que nous sommes consentants. Ah, et donc ça renvoie au fait que notre responsabilité, elle est pleine et entière. Maintenant, ça demande un petit descriptif. Je vais vous imager cela parce que je ne peux pas l'affirmer comme ça simplement. Donc je vais vous donner une petite chose tout simple. Si par exemple, parce que ça peut arriver, je vis un conflit avec quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie. Voilà, un conflit avec quelqu'un. D'accord ? Voilà. Donc je vis un conflit. Quand je vis un conflit, parce que l'analyse des anciens était très précise, ils ne regardaient pas quelle était la teneur du conflit. C'est pas ça qui les intéressait, mais ce qui les intéressait, c'est quand je suis en tension, en conflit avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe en moi ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe en moi ? Le fait que ça va vite, très vite dans le mental, parce qu'il faut trouver des arguments contre l'autre. Il faut trouver des auto-justifications contre l'autre. Donc je vais alimenter comme ça, je vais croire que l'autre est un ennemi, qu'il faut que je me défende. On retrouve la question de tout à l'heure. Et donc, comme il faut que je me défende, il faut trouver des arguments pour me défendre. Et puis je rentre dans tout un processus où je vais, par peur, mais aussi par le fait de ne pas me laisser démolir par l'autre, essayer de trouver des arguments, des moyens de défense, des parades, etc. Et le mental va à toute vitesse. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Le mental va à toute vitesse. Et là, j'alimente le conflit de telle manière que, eh bien, je vais me laisser configurer par une posture qui est la posture de celui qui résiste à l'autre vécu comme ennemi. Mais, par exemple, quand on regarde une chose, il y a en nous déjà tout un combat par rapport aux pensées qui nous envahissent. Mais les pères avaient remarqué une chose, c'est que plus on lutte contre une pensée, plus elle nous envahit. Plus on voudrait essayer de contredire, par exemple, un représentant de commerce qui a bien enregistré une logique et sa logique nous conduit à acheter une encyclopédie, plus je vais le contrer, plus il va me convaincre de ses arguments. Vous voyez ici, c'est tout un... Voilà. Et donc, dans ce processus, c'est moi qui suis en conflit avec l'autre, ça c'est personne d'autre. C'est moi qui vis une tension, c'est peut-être moi qui vis une colère, une irritation, quelque chose qui vient me contredire. Et puis, eh bien, ça va peut-être s'amplifier de telle manière que je ne vais plus voir cette personne, etc. Et puis, si je suis invité, par exemple, à des noces, parce que, j'ai mon cousin ou j'ai mon fils qui va se marier, etc. Et puis, il se trouve que la personne avec qui je suis en conflit est invitée. Et puis, je vais essayer de l'éviter le plus possible, etc. Et puis, à un moment donné, je ne veux pas faire un scandale devant tout le monde, et puis il se présente à moi, et puis je m'avance pour l'embrasser, et paf, je lui monte sur les pieds. Ça veut dire que, voilà, il y a mon inconscient qui a parlé plus vite. Voilà. Et puis, si je laisse amplifier le mouvement, à un moment donné, je vais être entraîné à dire ce que je ne voulais pas dire et à faire ce que je ne voulais pas faire. Et là, il y a l'intervention du fameux diabolos, qui n'est pas à l'origine de la problématique, qui vient s'infiltrer dans une disposition mauvaise en moi et qui va venir amplifier cette disposition mauvaise, comme le monde angélique va venir amplifier mes dispositions bonnes. Et voilà où il y a l'articulation du psychologique et du démoniaque. Du point de vue de la tradition spirituelle, j'entends, je ne parle pas uniquement de ma propre expérience, j'ai toute une tradition de 2000 ans derrière moi. Ici. Et donc, en fait, on ne peut pas dire que c'est le diabolos qui est responsable de la violence dans le monde, de la dégradation du monde. C'est l'être humain qui l'engendre lui-même, qui est responsable, et qui est même responsable s'il se laisse entraîner à des actes passionnels ou faits sous l'emprise de la passion et qui ont pu le déborder. Si on va interroger en prison des gens qui ont tué sous l'emprise de la passion, ils vous disent sincèrement, je n'ai pas voulu faire ça. Et là, ça montre qu'il y a quelque chose en eux, ils ont ouvert une porte. Je vais vous dire une dernière petite chose, je suis prêtre. À ce titre, je suis exorciste. Donc j'ai eu plein de demandes d'exorcisme depuis 28 ans que je suis prêtre. Non, 23 ans, excusez-moi. Et en fait, j'ai toujours traité, sauf deux fois dans ma vie, la question de l'exorcisme par le terrain. Ça a marché. C'est-à-dire que je me suis occupé du terrain, c'est-à-dire que je ferme les portes parce qu'il est dit dans les évangiles que si on chasse un démon d'une demeure et qu'on nettoie et on balaye bien la demeure, le démon il s'en va comme un SDF, il ne sait pas où aller squatter. Et puis il se dit, puisque j'étais chassé, je reviens avec sept démons plus forts que moi, ils reviennent dans la maison, et là, l'état de la personne, dit le Christ, pas l'état de la maison, l'état de la personne, est pire après qu'avant. Donc, finalement, la question, c'est la question des portes et des fenêtres. Il faut faire attention au courant d'air, le courant d'air, c'est dangereux du point de vue spirituel. Et on a parlé tout à l'heure du vent, comme bénéfique, la voir, et là, les courants d'air. Et donc, ici, il faut faire attention aux portes et aux fenêtres. Moi, quand je soigne des gens qui viennent pour l'exorcisme, je m'occupe des portes et des fenêtres. Je leur demande où sont les portes d'entrée, où je mets en évidence les portes d'entrée et les fenêtres. Et quand on ferme les portes et les fenêtres, toutes les problématiques un peu sensationnelles des fois, hein, un peu extraordinaires, qui se manifestent dans les cas d'exorcisme, eh bien, ça se résout. Et donc, ça prouve ici que la problématique n'est pas le diabolos. La problématique, c'est se laisser infiltrer par le diabolos. Voilà, tout un chapitre, hein. Voilà, ça demanderait des prolongements, évidemment. Mais ça, c'est de l'ordre du discernement spirituel.
Mais il y a une sorte de continuité dans votre ouvrage sur la question de la responsabilité.
Oui.
Vous parlez très bien. Oui. À savoir que vous faites la distinction. Vous dites, je ne suis pas responsable des événements
oui.
qui m'arrivent.
Oui.
Par contre, je suis responsable de l'aide oui. que je vais adopter
oui.
pour répondre à
ça. Oui, voilà, exactement. Ça, je développe beaucoup ça. Je trouve ça très important. Donc, comme il a été dit, je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, de ce qui me tombe dessus, d'un événement, de la parole de l'autre. La parole de l'autre appartient à l'autre. Hein. Et donc, je ne suis pas responsable de ce que l'autre me dit. Mais je suis toujours responsable de ma réponse, c'est-à-dire de l'attitude, du comportement que j'aurai face à l'autre. Et ainsi, ici, il s'agit de faire attention, c'est que peut-être le jugement ne sera pas sur les événements que j'aurais croisés dans ma vie, mais comment j'ai répondu aux événements qui m'auront sollicité. Et dans ce sens-là, la tradition sumérienne nous dit que Dieu nous dira, quand nous arriverons là-haut, il nous posera une seule question. Qu'est-ce que tu as fait de ma grâce? Qu'est-ce que tu as fait de ma grâce? Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait de l'amour que j'ai déposé en ton cœur? Donc vous voyez ici, ça renverse les perspectives et ça nous voit à notre responsabilité. Et peut-être, par rapport aux deux questions qui ont été posées ici, moi je n'ai qu'une seule réponse, c'est notre responsabilité. Si on attend toujours que Dieu fasse à notre place, eh bien, ça ne marchera pas, parce que, comme dit mon ami Stan Rougier, qui est un prêtre catholique, il dit « Dieu sans l'homme est manchot ». Eh bien, si Dieu peut agir dans le monde, c'est par l'être humain. Et donc, ici, c'est là où il y a les prophètes, qui sont des relais, mais nous sommes invités à être des relais de Dieu dans ce monde, et c'est notre responsabilité. Alors, en marche, levons-nous, on le lève, levons-nous avec cœur pour marcher vers Dieu et devenir des acteurs responsables de notre propre devenir, car nous avons une mission, c'est construire notre avenir ensemble, et soit nous allons construire ensemble, soit il se fera malgré nous. Bonne soirée.
RCF, donc pour peu d'argent, on peut commander des conférences sur CD. J'ai toute l'interview de Dominique de Souzenel depuis plus de temps sur CD que j'ai pu avoir sur RCF, Emmanuel Faber et bien d'autres. Donc il suffit de téléphoner ou d'écrire à RCF à Lyon et on nous envoie le CD dessus. Voilà. Je tiens le fil et ça ne marche pas, c'est là, oui, lorsqu'on tient le fil. Jean-Marc me l'a dit, alors je le regarde en disant qu'il ne faut pas tenir le fil. Peut-être une dernière question, ce serait une dernière question, malgré que nous ayons fini là vraiment sur de magnifiques paroles et une magnifique conclusion. Mais je dis toujours, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se sentir frustré de ne pas avoir pu parler? Tout est bien. Alors, nous allons encore vraiment vous remercier sincèrement.
Alors, pour honorer la tradition juive, je dirais une chose. L'essentiel, c'est la question.
Vous avez dû lire Marc Alain Watmin, entre autres. Vous pouvez rester assis si vous le désirez. J'ai encore quelques informations à donner. Tout simplement, il y a beaucoup de flyers ici. Vous allez pouvoir les prendre, mais je vais malgré tout vous dire, pour ceux qui sont intéressés,